Bonjour, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes de nouveau dans une session d'enseignement de la parole de Dieu avec le thème le service en temps de défi. Nous sommes rendus à la 47e semaine, donc on s'approche de notre jubilé. Dieu a été fidèle. Merci au Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Merci à vous également pour votre fidélité. Envers la parole de Dieu, envers votre engagement pour devenir encore de meilleurs croyants, de meilleurs serviteurs en vous dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc, nous remercions le Seigneur pour tout cela. Nous allons prier et par la suite, nous allons rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous ne serions pas ici. Seigneur, merci, Père, parce que tu a pourvu, Seigneur, tout ce qui était nécessaire pour notre salut, pour notre rachat, Seigneur, pour notre rédemption, notre délivrance. Et que, Seigneur, ce matin, ce soir, Seigneur, peu importe le moment, Seigneur, où est-ce que les gens vont écouter cette vidéo, que ta parole soit fraîche, elle soit puissante, elle soit efficace. Elle provoque, Seigneur, des changements en nous. Et provoque la transformation que tu veux, Seigneur, qu'elle opère dans nos vies. Alors, Seigneur, nous nous remettons à toi. Merci de mettre, Seigneur, l'ordre, Seigneur, dans les idées, dans les paroles. Car je ne peux pas faire ça, Seigneur, sans toi. Je dépends entièrement, Seigneur, de ta capacité. Tout comme, Seigneur, nos bien-aimés qui recevront cette parole ont besoin de toi également. Et qu'en toute chose, Seigneur, la gloire te revienne à toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous allons dans Marc au chapitre 11. On continue le sujet de l'autorité. Aujourd'hui, on va parler de l'autorité de Christ. Je pense que c'est un sujet extrêmement important que on en parle, oui, mais des fois, on n'y va pas. Peut-être, on reste peut-être seulement en superficie et pas assez en profondeur. Aujourd'hui, dans le fond, le but, c'est ça, c'est d'aller un petit peu plus loin dans cette thématique-là pour essayer de connaître un petit peu plus l'autorité de Christ. On se souvient, les gens ont questionné, ont contesté l'autorité de Jésus-Christ. L'autorité, c'est souvent quelque chose qui, la nature humaine, n'aime pas l'autorité humaine ou l'autorité céleste et donc cherche à la contester ou à ne pas s'y plier. Mais bref, les religieux, les juifs religieux, les dirigeants de l'époque avaient ce problème-là et c'est un problème qui est dans la nature humaine encore aujourd'hui. On le voit avec tout le contexte que nous vivons, qu'on soit d'accord ou non, il y a quand même des gens qui contestent les autorités qui sont présentes dans la société. Alors, nous lisons dans Marc au chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit, Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, et ils craignaient le peuple, donc, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, Nous ne savons. Et Jésus leur dit, Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc, la semaine dernière, on avait parlé un peu de la notion, on a fait une introduction sur la notion d'autorité, en disant, partant que c'est une notion qui est mal comprise et dans plusieurs cas, de façon générale, peut-être mal connue ou peu connue. Même dans le monde chrétien, et donc mal appliqué aussi. Ça, on l'avait vu aussi, également. Une des définitions qu'on peut donner à l'autorité, ben, c'est le pouvoir de choisir. C'est un droit, c'est une permission, c'est une juridiction sur un territoire ou sur des personnes. On a vu aussi que l'autorité est donnée ou est déléguée ou partagée par quelqu'un qui a un pouvoir supérieur. On a vu par le passage que nous avons lu qu'il y a deux types d'autorité. Jésus parle d'autorité qui vient du ciel et d'autorité des hommes, donc terrestres, et qu'il existe aussi une différence entre le pouvoir et l'autorité. J'avais, à un moment donné, dans une prédication, j'avais donné un exemple d'un policier. Un policier qui a un pistolet et qui représente l'ordre et la loi, dans le fond, et qui a la responsabilité d'appliquer et de faire respecter la loi. Donc, le policier a un pouvoir parce qu'il y a quand même une capacité avec son arme. Et il y a une autorité parce qu'il représente, ce policier-là représente une autorité. Donc, une autorité lui a été déléguée et il a cette juridiction, il a ce droit, mettons à Montréal, d'exercer cette autorité-là et d'exercer ce pouvoir-là. Par contre, si ce policier va à New York, ce policier va toujours avoir le pouvoir, donc va toujours avoir l'arme à feu, mais il n'a aucune juridiction, donc aucun droit, aucune permission de l'utiliser, ni même d'utiliser son autorité en tant que policier sur ce territoire-là, parce que sur ce territoire-là, il n'a aucune autorité. Et donc, le pouvoir et l'autorité, ce sont deux choses qui sont différentes. Par contre, Jésus-Christ, lui, détient tout pouvoir et détient toute autorité. Et ça, on l'avait vu la semaine dernière. Et on a vu également que l'Église est investie par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est important. Il y a le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Et il y a l'autorité de Christ et les deux sont importantes, sont nécessaires pour que l'Église fasse l'œuvre de Dieu. Et on avait fini par un cas type, par l'histoire de Joseph. Joseph, dans le fond, qui représente un témoignage de ce que c'est un homme d'autorité, un homme qui exerce, qui vit dans l'exercice d'une autorité. Et on a vu à travers son histoire, donc, l'importance de la bonté de Dieu, le fait que Dieu est avec nous, nous place dans des situations où est-ce que bien des fois nous sommes dans une position d'autorité. On a vu également que l'intégrité est critique, est essentielle à un bon exercice et à une croissance aussi de cette autorité-là. Et que finalement l'Esprit de Dieu qui est en nous, est également un facteur important dans l'autorité qui nous a été donnée. Mais ça, si Dieu voulant, on pourra le développer un petit peu plus dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'autorité de Christ et on va juste faire un petit retour sur qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à l'autorité. Donc, les chefs religieux s'approchent de Jésus, lui disent: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Et on avait vu que autorité, le terme grec, c'est exousia, qui est pouvoir de choisir, une permission, un droit, une juridiction sur un territoire ou sur des personnes. Une autre définition plus moderne, c'est le droit de commander et le pouvoir d'imposer l'obéissance. Quelqu'un qui est dans une position d'autorité est une personne qui a le droit d'imposer une soumission, d'imposer une obéissance. On avait vu deux types d'autorité, céleste et terrestre, par la question que Jésus pose à ces religieux-là. Et bien sûr, on avait vu la différence entre le pouvoir et l'autorité. Et une personne qui a un pouvoir, mettons qui a un poste ou qui a une arme, ne veut pas dire qu'il a l'autorité ou qu'il a le droit d'exercer ce pouvoir-là. Une personne peut avoir le pouvoir et manquer d'autorité. mais qu'on avait vu que Jésus-Christ, lui, avait tout pouvoir et avait toute autorité. Donc là, on va aller voir un petit peu plus en détail à travers la Bible. On va voir plusieurs versets qui parlent de cette autorité-là. Et on va voir dans le fond qu'est-ce qu'on peut en ressortir pour nous dans la session d'aujourd'hui. Donc, premièrement, au niveau de l'autorité de Christ, il faut aller au début, il faut aller au commencement. Et dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, et dans tout le chapitre 1 de Jean, on nous montre que dans le fond, la parole, Jésus, Dieu, c'est la même chose. On parle de la même personne, on parle de la même affaire, si on peut dire. Et donc, l'autorité de Christ est l'autorité de Dieu. Il n'y a pas une autorité qui diffère parce que la parole était Dieu. Et plus tard, on voit que la parole est faite chair. Donc, on dit vraiment que Jésus-Christ est la manifestation de la parole, mais la manifestation aussi de Dieu en chair. Donc, cette autorité-là, l'autorité de Christ, ce n'est pas une autorité qui a commencé à la naissance de Jésus-Christ ou au début du ministère de Jésus-Christ. Cette autorité-là existe et était là depuis le début, avant même la création. Donc, avant même la création, l'autorité de Christ existait. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16, nous lisons: car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et ça, c'est important parce que si le premier verset nous parle d'une autorité qui est présente avant la création, ici on nous parle que toute la création, dans le fond, a été faite et est soutenue par lui. Donc, il a l'autorité. Et cette autorité-là qui a été manifestée à travers la création et dans la création, et que cette autorité-là également soutient toute la création. Donc, c'est important. Et quand on parle de création, on parle autant des choses visibles que des choses invisibles. Donc, tout ce qui a été créé est maintenu par l'autorité de Christ, parce que ça a été fait par lui, créé par lui et pour lui. Okay? Donc, quand on dit pour lui, c'est-à-dire qu'il y a aussi une notion d'obéissance. Toute chose obéit dans la création, obéit à Christ. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 3, on comprend également que tout l'univers, toute la création est soutenue par sa parole qui est puissante. Et on va revenir sur l'élément de la parole, mais je veux qu'on comprenne, parce que ça, c'est la base. Avant même la création, l'autorité de Christ était là, et pendant la création, l'autorité de Christ a été manifestée, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Plus tard, lorsque Dieu s'est manifesté en chair, donc Jésus-Christ était parmi nous en tant qu'homme, et qui a vécu comme un homme et qui a exercé son ministère. Dans Marc chapitre 1, verset 22, si on l'avait vu il y a des semaines en arrière, on a vu que les gens à la synagogue étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Imaginez-vous un peu. Moi, personnellement, ça, c'est une des scènes que j'aurais aimé ça être présent, parce que les gens voyaient la manifestation de la parole qu'eux autres lisaient depuis belle lurette, depuis des siècles, depuis des années, et qui était devant eux. Cette parole était faite chair devant eux. Ça, c'est vraiment tout un exploit, quelque chose de merveilleux, et eux autres se sont même pas rendus compte de ça. Donc, ils étaient frappés de sa doctrine. Pendant des années, des siècles, les gens allaient à la synagogue et les gens savaient qu'est-ce qui allait se passer. Les gens savaient déjà qu'est-ce qui allait être dit, connaissaient déjà les enseignements et tout était rendu religieux, mécanique, routinier. Tout était protocolaire, tout était déjà fait. Les gens n'avaient aucune attente. Ils allaient là parce que ça faisait partie de la religion, des traditions. Et là, il y a Jésus-Christ qui se pointe, Jésus-Christ la parole, Jésus-Christ qui est Dieu manifesté en chair, Jésus-Christ qui a cette autorité-là d'avant la création et de pendant la création. Donc, que toutes les choses qui sont existantes à ce moment-là sont soutenues par lui qui est là présent devant eux et qui se met à lire le texte dans Isaïe. C'est sûr que les gens, l'impact sur les gens, la réaction des gens a dû être frappante de voir cette fraîcheur, de voir cette proximité avec Dieu, avec sa vérité, et surtout l'approche avec laquelle Jésus amène sa parole frappe aussi les gens et les gens se disent, mais il enseigne avec une autorité que personne d'autre a. C'est normal, parce que c'est lui la parole qui a été faite chair. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la prédication et l'enseignement de la parole sont aussi une expression de son autorité. Ce que je fais présentement, je suis en train de parler de son autorité, mais à chaque fois qu'on partage la parole, à chaque fois que on prêche la parole, on prêche son autorité. Peu importe le sujet qu'on traite, peu importe la thématique qu'on aborde, du moment qu'on enseigne la parole, du moment qu'on prêche la parole, on est en train d'exprimer l'autorité de Jésus-Christ. Et ça, on doit faire très attention parce que on ne devrait pas prendre ça à la légère. Il faudrait surtout pas prendre ça à la légère parce que on parle de l'autorité de quelqu'un et de pas n'importe qui. On est en train de parler de l'autorité de Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas, moi, me présenter devant vous sans avoir, premièrement, consulté Christ et sans avoir cherché la face de Dieu pour savoir quelle est sa volonté par rapport à la parole qui veut être adressée, qui veut adresser à l'Assemblée. Et donc, et de ce que je vais dire. Je ne le dis pas de mon autorité, je le dis de son autorité, parce que je suis en train d'exprimer et de présenter ce qui est la source d'autorité divine, donc la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention. Et peut-être des gens qui écoutent, qui aimeraient ça prêcher, qui aimeraient ça annoncer la parole, faites attention. Soyez bien conscient de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que ce n'est pas une question d'être devant le public, puis de que les gens vous regardent et que les gens voient que vous êtes éloquent, que vous avez du charisme, que vous connaissez plein de choses, que vous êtes capable d'enseigner de plein de facettes, de différentes perspectives. Non. L'autorité de Christ est entre vos mains. Et c'est ce qui est en train d'être exprimé et d'être enseigné. Donc, à prendre avec beaucoup de tremblement, à faire avec beaucoup de prudence et beaucoup d'attention. Par la suite, après la résurrection, on voit que Jésus s'approche de ses disciples et il leur parle ainsi en leur disant, et dans Matthieu 28, on voit que tout pouvoir, donc toute autorité, on l'avait déjà vu la semaine passée, le vrai terme ici, c'est toute autorité, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et par la suite, il leur donne la grande commission d'aller partout dans le monde pour faire des disciples, de les baptiser. Et il dit qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est important parce que Jésus, dans le fond, il dit, là, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Et donc, allez-y, allez-y avec mon autorité. Mais non seulement ça, vous ne serez pas seulement avec mon autorité, mais je serai avec vous. Je vais vous endosser. je serai avec vous. Mon autorité sera là parce que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, ici, l'autorité de Christ, si auparavant, était manifeste, était révélée dans la création, eh bien, elle est maintenant pleinement manifestée dans l'homme à travers le Fils, à travers Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu, et à travers l'Église. C'est pour ça qu'il envoie, il n'envoie pas des anges, il envoie des hommes, il envoie des femmes pour prêcher l'Évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Donc cette autorité-là qui avant était manifeste dans la création, aujourd'hui elle est manifestée elle a été manifestée en Christ, l'homme, donc le Fils, et également dans l'Église, et donc dans toute la multitude des croyants. Une chose qu'on doit dire par rapport à la parole qui est extrêmement importante, parce qu'on le sait, on l'a déjà entendu, on nous a déjà prêché, la parole de Dieu, c'est autorité, c'est une source d'autorité, effectivement. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Jésus fait chair, ou Jésus, c'est la parole fait chair. C'est la même chose, peu importe comment vous voulez prendre. Et ça, on le voit dans Jean chapitre 1, verset 14. Et donc, obéir à la parole de Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Jésus et c'est d'accepter de vivre dans cette autorité-là. Lorsque je décide d'obéir la parole, ben je décide de. Je reconnais l'autorité de Jésus-Christ et je décide de l'appliquer dans ma vie et donc de m'y conformer. Un point important ou étonnant, une statistique, c'est que dans l'Ancien Testament, on retrouve à 3808 fois le terme ou l'expression « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, de là de voir l'importance de la parole de Dieu pour tous les aspects de la vie et que ça revienne autant de fois dans ce livre et juste dans l'Ancien Testament. Ça nous montre, ça nous fait voir, dans le fond, l'autorité, l'importance que la parole de Dieu a et devrait avoir dans notre vie. Et par conséquent, tout ce qui sort de la parole de Dieu doit être source d'autorité pour le croyant. C'est pour cela que nous disons, ben, la parole de Dieu, la Bible, c'est une source d'autorité dans ma vie. Parce que c'est Jésus qui est fait chair, c'est Dieu qui me parle et donc c'est l'expression de son autorité. Il me dit ces choses dans la Bible parce qu'il a l'autorité de me les dire. Il a la permission de dire ces choses sur mon cœur, sur ma vie, sur mon futur, parce qu'il a l'autorité de le faire. D'autres versets qui sont aussi en lien avec cela, qui me démontrent l'importance et l'autorité qu'a la parole de Dieu, on le trouve dans Hébreux chapitre 4, verset 12, lorsqu'il est dit: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, la parole de Dieu a une autorité et donc a une juridiction qui va jusqu'au plus profond de notre être et dans les endroits les plus secrets de notre âme aussi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, vous travaillez, vous êtes sur un ordinateur ou vous faites des recherches, vous voulez aller sur un site et là, on vous dit que le site vous n'avez pas accès. Parce que vous n'avez pas les droits pour accéder, mettons, à ces informations-là. Des fois, c'est ça, vous voulez aller consulter quelque chose et on vous dit, ben, que c'est pas une information qui est disponible pour vous parce que vous n'avez pas les droits et donc vous n'avez pas les accès. Vous n'avez pas l'autorité pour avoir accès à ces informations-là. Et c'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. On pense, nous, que Dieu n'a pas accès, mais Dieu a accès à tout de notre vie. Cette autorité-là lui confère tous les accès possibles dans notre vie et d'être capable d'aller très profond dans notre vie et également d'être très précis dans son travail de transformation dans notre vie comme on l'a vu là dans la parole de Dieu. Et elle a la permission également, elle a le droit, la juridiction de juger la condition de notre cœur. La parole de Dieu, combien de fois elle nous convainc, l'Esprit de Dieu nous donne une conviction lorsque nous recevons une parole. Pourquoi? Parce qu'elle a autorité. On entend d'autres messages. Ces messages-là ne viennent pas nous chercher, viennent pas nous confronter ou nous contrer, nous pousser à nous humilier, à nous repentir. Pourquoi? Parce que même si ce sont de grands éloquents, même si ce sont de grandes philosophies, elles n'ont pas l'autorité de la parole de Dieu pour venir juger notre cœur. Seule la parole de Dieu a cette autorité-là. Seulement la parole de Dieu a l'autorité, a le droit d'aller au plus profond du cœur. Les autres philosophies, les autres orientations philosophiques ou religieuses n'ont pas cette autorité-là. Donc c'est important pour nous de comprendre cela, parce que la parole de Dieu est une source d'autorité et les premiers disciples l'ont également compris. Dans Actes chapitre 2, versets 41-42, il dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc ceux qui acceptèrent l'autorité de la parole, qui crurent dans la parole, qui ont eu confiance dans la parole, qui leur fut prêchée dans l'Évangile, eh bien ils ont pris la décision d'être baptisés. Donc l'autorité de cette parole-là est venue et les a amenés à prendre cette décision-là d'entrer dans les eaux du baptême et de s'identifier avec Jésus-Christ. Et juste le verset plus tard, il est dit que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Mais remarquez, le premier élément dans les activités de l'Église primitive, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Dans l'enseignement de quoi? Dans l'enseignement de la parole. Dans l'enseignement de ce que Jésus-Christ avait enseigné, l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, les premiers chrétiens comprenaient l'importance, de la parole de Dieu dans leur vie et dans les activités de l'Église. Et c'est important pour nous aussi. Étant donné que la parole de Dieu est la source d'autorité, elle doit jouer un rôle essentiel et important dans notre vie et dans les activités de l'Église. Si dans les activités d'une Église, la parole de Dieu n'a pas sa place comme prioritaire, c'est une Église qui va avoir des problèmes. C'est une Église qui va se retrouver dans des problèmes facilement, qui va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir progresser dans l'œuvre de Dieu. Mais une Église qui comprend l'importance de la parole, eh bien, pourra avoir des résultats et avoir du succès également. Et on voit ici que la parole, l'autorité de la parole de Dieu devient évidente lorsque, un, nous acceptons la parole et deux, nous persévérons dans la parole. L'efficacité de la parole, ou plutôt l'efficacité du pouvoir, de l'autorité que cette parole a, devient évidente dans notre vie lorsque nous acceptons. Si je suis là, j'écoute, mais ça passe 10 000 pieds par-dessus ma tête. Si j'avais la coutume de m'asseoir à l'église et de pas écouter la prédication, de me distraire, de m'endormir ou de ci, de ça, et que je ne reçois pas la parole, si j'accepte pas la parole, ou si je me mets à raisonner humainement, parlant, donc en mettant la parole de Dieu au même niveau que mon raisonnement, je suis en train de rejeter la parole de Dieu. Donc, si je l'accepte pas à la base, cette autorité-là, cette efficacité-là, elle sera pas évidente dans ma vie. Et aussi, si je l'accepte, mais que je persévère pas dans la parole de Dieu, ben, ce sera la même résultante. Donc, c'est pour ça que c'est important, pour que cette autorité-là devienne évidente. Et parfois, et peut-être même vous dites, ouais, mais je sens pas que la parole de Dieu, elle agit dans ma vie. Mais est-ce que tu l'acceptes, premièrement? Et deux, est-ce que tu persévères dans la parole de Dieu? Donc, c'est plutôt ces questions-là qu'on doit se poser. Si on sent que ah, la parole de Dieu, on a l'impression qu'elle n'est pas efficace ou qu'elle elle n'a pas cette puissance-là dans notre vie. Regardons plutôt qu'est-ce que nous faisons par rapport à cette autorité-là. Est-ce qu'on la reconnaît comme une source d'autorité? Est-ce qu'on l'accepte comme une source d'autorité? Et est-ce qu'on persévère en elle? Ça, ce sont des éléments qui sont essentiels si on veut expérimenter l'évidence de l'autorité qu'il y a dans la parole de Jésus-Christ. Amen. Donc, ainsi parle l'Éternel, on le retrouve des milliers de fois, et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Dieu parle encore. Donc voilà pour l'autorité de la parole. On poursuit avec l'autorité de Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et par là, on comprend que le nom de Jésus-Christ est une évidence claire aussi de son autorité pour le salut de toute âme. Et que, selon 1 Timothée 2,5, il est le médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Le salut de notre âme est possible seulement par Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le seul qui a l'autorité de nous sauver. Jésus-Christ est le seul qui a cette juridiction de nous déclarer sauvés. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Donc, ce n'est pas une question de si je suis dans une religion ou dans une autre. Si je suis un code de vie. Si je suis une bonne personne ou si je ne suis pas une bonne personne. Non. Jésus-Christ est le seul qui peut déterminer, okay, qui a cette juridiction, qui a ce droit légal divin de déclarer si telle ou telle personne est sauvée. Et c'est seulement par lui, par cette autorité-là, que nous pouvons être pardonnés, que nous pouvons être restitués dans une communion avec Dieu, dans une relation avec le Seigneur. Et donc, son nom devient également une source d'autorité pour le salut, pour la délivrance. Donc, lorsqu'on dit et on prie dans le nom de Jésus-Christ, on ne prie pas comme ça parce que c'est une formule. On prie parce que nous soumettons toute chose à son autorité. Donc, même ce qu'on demande lorsqu'on dit dans le nom de Jésus-Christ, c'est que les choses s'accompliront selon ce que lui voudra, parce qu'il a toute autorité. Donc, selon sa volonté, parce que c'est la source d'autorité. Et ça, même les esprits, les forces invisibles reconnaissent et sont soumises à cela. C'est pour cela que le nom de Jésus est important et essentiel à cause de l'autorité qui vient avec. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22, il est écrit: Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds, pardon, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Christ a mis fin à l'ancienne alliance. Et là, peut-être vous posez la question, mais si qu'on a vu au début, toute chose, tout ce qui a été créé, visible et invisible, a été créé par lui et pour lui, donc qu'il était en autorité surtout, pourquoi est-ce qu'on dit ici qu'il est placé par-dessus toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité? Les explications qu'on peut donner sont simples. La première, c'est que une nouvelle alliance fut établie. Christ, par sa mort, a mis fin à l'ancienne alliance. Christ avait l'autorité de mettre fin à l'ancienne alliance et il l'a accompli à travers sa mort. Et Christ avait l'autorité d'établir une nouvelle alliance, un nouveau pacte. Et dans ce nouveau pacte, toute chose également a été amenée sous son autorité via la résurrection, donc via la concrétisation, disons, de la nouvelle alliance. Ce qu'on comprend également, c'est que Adam et Ève avaient reçu une autorité, avaient reçu une autorité sur la création. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont chuté, ils ont perdu cette autorité-là. Le diable est venu leur dérober cette autorité-là. Ils sont devenus esclaves, esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves de la mort. Et donc Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est mort, ressuscité, il a restauré toutes ces choses à travers lui, donc à travers le Fils. Et toutes choses ont été ramenées. Donc toute ce qui, l'autorité dans le ciel, toute l'autorité dans la terre a été ramenée et restaurée, non plus dans Adam, mais dans Jésus-Christ. Et ça, c'est important à comprendre parce que il a restauré l'autorité qui avait été perdue par Adam pour, dans le fond, en instaurer une plus grande. Pourquoi plus grande? Parce que lui, il est parfait. Il est supérieur à Adam. Donc, il est clair que cette autorité-là, ce qui allait lui revenir, devait être une autorité beaucoup plus grande que celle d'Adam. Mais là, vous me direz peut-être, ouais, mais Jésus est Dieu, donc Jésus avait déjà toute l'autorité. Oui, mais comprenez une chose. Quand Jésus-Christ est remonté au ciel, il est remonté dans un corps. Il est ressuscité, il est ressuscité dans un corps. C'était un corps glorifié, c'était un corps avec une nature différente que la nôtre, avec un état différent que le nôtre, mais c'était quand même un corps, parce que lorsque les disciples l'ont vu et tout, il leur a montré les marques de sa crucifixion. Et lorsqu'il reviendra également dans ce corps qui a été ressuscité et qui a été glorifié. Donc, le corps de Jésus est dans le ciel. Ce corps glorifié est dans le ciel. Et donc, toute autorité a été restituée dans l'humanité à travers ce corps, à travers Jésus qui s'est manifesté en chair. C'est important parce que la façon comment les choses ont été manifestées depuis le début ont évolué. Auparavant, c'était l'éternel et c'était l'autorité à travers la création. Mais en Jésus-Christ, tout a été ramené à lui, tout a été placé en lui. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit qu'il a été placé dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. C'est qu'il a restitué l'homme dans son rôle dans le plan de Dieu. Et ça, c'est important à tenir en tête parce que c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes, avec notre nature faible, nous avons une autorité sur les esprits impurs, sur les démons, à travers Jésus-Christ, en son nom, parce qu'il a reçu cette autorité-là, parce que nous croyons en lui. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est que Jésus-Christ a établi une nouvelle alliance. Il avait l'autorité de le faire. Et dans cette nouvelle alliance, tout a été ramené à lui et placé sous son autorité jusqu'à la fin des temps et même au-delà de cette génération-ci, au-delà de cette phase de l'histoire de l'humanité. Donc dans les siècles à venir, c'est dans la prochaine ère, lorsqu'il reviendra et qu'il régnera sur terre. Également, son autorité sera la même. Et on nous dit ici que il a tout mis sous ses pieds, qu'il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc l'Église est sous cette autorité-là. L'Église n'a aucun intérêt et ne devrait en aucun cas se séparer de cette autorité-là, sinon cette Église va périr. Dans cette autorité-là, nous avons la protection, nous avons la puissance, nous avons l'efficacité dont nous avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, important à comprendre et à retenir et à méditer là-dessus. L'autorité de Christ était présente depuis le début avant la création, pendant la création. Elle a été également manifeste quand Jésus-Christ était en chair. Et on le voit aussi lorsqu'il calme la tempête, lorsqu'il juge le figuier. Donc la nature, il a une autorité sur la nature. Lorsqu'il chassait les démons, une autorité sur les démons, une autorité sur les esprits impurs, une autorité sur la mort, une autorité sur les maladies et sur les infirmités. On l'a vu dans son ministère. Donc, je ne suis pas allé là-dedans parce qu'on en a parlé en long et en large de tous les miracles qu'il a fait, mais c'est une autorité qui était encore là, manifeste. Mais à travers la croix, tout a été restitué en lui et lui est devenu, dans le fond, le chef suprême de cette nouvelle alliance et le chef suprême également de l'Église. Si on poursuit, nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, qui dit: Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc ici, on voit que du début à la fin, de ce qu'on a vu avant la création du monde jusqu'à la fin, tout est question de son autorité. Tout découle de son autorité. Tout est fait et orchestré par l'autorité de Christ. Et que il reste encore des choses à voir. On n'a pas tout connu. L'humanité n'a pas tout connu de son autorité. Et aujourd'hui, alors que les valeurs chrétiennes sont de plus en plus critiquées, contestées, attaquées même, ben c'est l'autorité de Christ qu'on est en train d'attaquer. Et c'est quelque chose qui a été annoncé dans la Bible, prophétisé. Donc, il faut pas en être surpris ou en être troublé de ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus-Christ est celui qui aura le dernier mot dans toute cette affaire-là. Et donc, le monde n'a pas encore vu toute l'ampleur et la grandeur de son autorité, parce qu'à travers les jugements qui vont venir et les tribulations, ce sera également une manifestation de l'autorité de Dieu, de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, il dit: Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En d'autres mots, un jour, tout le monde, tout être reconnaîtra l'autorité suprême de Jésus-Christ. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils aient combattu cette autorité-là de toute leur force durant toute leur existence. Qu'ils aient cherché à faire disparaître toute connaissance de Jésus-Christ. Un jour, tout genou, sans exception, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc que Jésus-Christ a cette autorité-là suprême sur toute la création, dans le ciel et sur la terre, et même sous la terre. Et le dernier verset, le dernier texte qu'on trouve dans la Bible, qui est Apocalypse, chapitre 22, verset 21, dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. C'est une bénédiction. La Bible finit avec une bénédiction qui découle d'une faveur qui nous est donnée par l'autorité de Jésus. Nous bénéficions d'une grâce, d'une bénédiction suprême par l'autorité de Jésus-Christ. Parce que nous l'obtenons parce que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour ça que nous recevons la grâce. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Si Jésus-Christ n'a pas cette autorité-là, il n'y a pas de grâce. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, il n'y a pas de paix. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, il n'y a pas de salut. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, il n'y a pas de résurrection d'entre les morts. Il n'y a pas de vie éternelle. Mais parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce que Jésus-Christ a cette autorité-là, nous avons cette grâce suprême qui se manifeste sous diverses formes dans notre vie aujourd'hui, mais que nous savons également que pour l'éternité, cette grâce sera également manifestée de tellement de diverses façons. Donc, en résumé, l'autorité, bien des fois, c'est une notion qui est mal comprise et donc qui est mal appliquée. Comme définition, là, on a vu, c'est le pouvoir de choisir une permission, un droit, une juridiction sur un territoire ou des personnes Jésus-Christ a le droit d'imposer obéissance. A le droit d'imposer obéissance à toute l'armée des ténèbres, mais a le droit d'imposer obéissance aussi à tous les gouvernements, à toute la nature, à toute la création, à tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre, dans les choses visibles et dans les choses invisibles. Et donc l'autorité de Jésus se retrouve dans la création et même avant la création. On retrouve l'autorité de Christ dans la parole et dans l'enseignement de celle-ci. Et on a vu que cette parole a une autorité très loin. Elle peut aller au plus profond de l'âme. Il a accès jusqu'aux lieux les plus secrets de notre âme, les choses qu'on n'a jamais dit, révélées à personne. Parole de Dieu a autorité et accès jusqu'à ces endroits-là de notre âme. Et l'importance, tout comme les premiers chrétiens, d'accepter, de persévérer dans la parole pour que cette autorité-là soit évidente et que également nous portions du fruit. Dans le salut de l'humanité, nous voyons également l'autorité de Jésus parce que c'est par son nom. Il n'y a pas d'autre nom. Et c'est pour ça que notre Église, nous baptisons au nom de Jésus-Christ parce que c'est l'autorité suprême. C'est l'autorité pour le salut qui nous a été donné et c'est en son nom que nous sommes sauvés. À aucun autre nom, il y a du salut. Il y a le salut et le pardon de nos péchés. C'est seulement dans le nom de Jésus-Christ parce que il y a l'autorité dans ce nom-là. Dans la mise en place de cette nouvelle alliance également, parce que nous l'avons vu dans Éphésiens, dans cette nouvelle alliance, tout, mais absolument tout, est soumis à lui et à son autorité. Une autorité qui sera encore manifeste et évidente dans les derniers jours, à travers les jugements et les tribulations, et qu'un jour tous connaîtront cette autorité-là, et que cette autorité-là est au-dessus de l'Église. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons aller voir justement c'est quoi l'autorité de l'Église, c'est quoi l'autorité du croyant, parce que je pense que c'est important. C'est important, si on veut servir le Seigneur avec les défis qui sont devant nous, il faut comprendre quelle est l'autorité de Christ. Donc, par quelle autorité nous faisons l'œuvre de Dieu? Par quelle autorité nous agissons sur terre? C'est important, je pense, de connaître l'autorité premièrement de Christ, de savoir que même avant la création et jusqu'à la fin, tout est question de son autorité à lui. Et donc, bien-aimés, marchons dans l'autorité de Christ. Vivons sous cette autorité-là. C'est pour notre bien. C'est pour notre salut. C'est pour notre croissance. C'est pour vivre dans la grâce même de Dieu. Nous avons bien souvent la notion d'autorité comme quelque chose de négatif, quelque chose qui va être répressif, qui va nous brimer, qui va nous oppresser. Mais ce n'est pas dans le cas de Jésus, pas dans son cas, parce qu'il est le Dieu de paix, il est le Dieu d'amour, et il est mort, il est allé à la croix pour nous, pour nos péchés. Donc, reconnaissons cette autorité-là. Vivons. Maintenant, quand tu pries, prie en sachant quelle est l'autorité que Christ a. Tu t'adresses à qui? Lorsque tu pries au Seigneur, lorsque tu vas mentionner son nom, lorsque tu ouvres sa parole, si tu es en train de préparer un message de la parole de Dieu que tu vas donner bientôt, considère l'autorité qui est présentement entre tes mains. Et sous quelle autorité tu vas parler. Donc faisons attention à tout cela et que le Seigneur nous aide et nous permette de continuer d'avancer. On va prier. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions Seigneur parce que sans toi, sans ta parole, Seigneur, nous sommes perdus. Je te remercie Seigneur pour ton amour et ta bonté, mais merci également pour ton autorité parce que Seigneur, ta parole me montre que depuis avant même la création de toute éternité, cette autorité-là était présente. Et cette autorité-là, Seigneur, sera toujours présente également. Et elle sera également évidente. Seigneur, que cette autorité-là soit évidente dans ma vie. Je ne veux pas marcher dans ma capacité. Je ne veux pas vivre dans ma connaissance. Seigneur, je comprends que ton autorité est bénéfique pour ma vie. Ta parole, Seigneur, est essentielle dans ma vie. L'application de ton nom, Seigneur, est également essentielle dans ma vie. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as laissé entre les mains pour pouvoir vivre une vie victorieuse, une vie joyeuse, une vie qui est libre du péché, libre de toute condamnation, Seigneur, pour te servir et être attaché à toi. Bénis mon frère, ma soeur, les bien-aimés, Seigneur, qui recevront cette parole, qu'ils puissent l'accepter, persévérer dans elle, pour que ton autorité, Seigneur, soit davantage évidente dans leur vie. Je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, bien-aimés, vivons dans l'autorité de Christ, célébrons l'autorité de Christ, expérimentons l'autorité de Christ de façon encore plus évidente. Nous allons en être pleinement bénis et ça va être tellement profitable pour chacun d'entre nous. Soumettez vos foyers, vos familles sous l'autorité de Christ. Placez vos enfants, placez vos proches sous l'autorité de Christ. Toute situation au travail, placez-la sous l'autorité de Christ. Situation de maladie, placez-la sous l'autorité de Christ. Situation financière, soumettez-la à l'autorité de Jésus-Christ. S'il y a de l'oppression spirituelle, placez tout cela sous l'autorité de Jésus-Christ. Vous êtes au bon endroit et vous faites ce qui est sage pour votre vie et d'après la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, je vous dis shalom et à la prochaine. Au revoir.